Rosier La Fontaine. Ainsi écrivit-il, la tête pleine, un livre qui roule et qui brille, et met le corps en vrille. Il est le roi des métaphores, oxymores et anaphores. Oh, pour cela, il est très fort. Il aime les asyndètes, il est poète. Ses vers sont souvent libres, en les lisant, l'âme vibre. Pour Paul Poule, tout roule. Ses œuvres sont remarquables. Il n'y a rien dont il ne soit capable. Il ne lâche rien, il est même pataphysicien. C'est un modèle à suivre, il a même écrit des livres. Encore dans la fleur de l'âge, il a même fait des courts-métrages. Ses domaines de production sont vastes. Kenny Osier-Lafontaine est aussi vidéaste. Il réalise des documentaires. Ce soir, il rencontre des universitaires ainsi que des personnes d'autres univers.
Alors, vous nous direz s'il y a des erreurs sur votre état civil et votre parcours littéraire, hein, Kenny. Je vais passer la parole maintenant à d'autres étudiants de l'atelier d'écriture qui ont souhaité lire vos textes. Donc, c'est une interprétation possible de vos textes. Et notamment, il y aura deux extraits qui seront lus de manière très différente par deux étudiantes. Donc on va commencer par le premier extrait, donc c'est Charline qui va prendre la parole.
Alors moi je vais lire le poème Pour de faux. Le soleil c'est pas le soleil, il fait semblant, il dîne avec des chiens, dort avec des croix. Faut pas croire qu'on achète la lumière avec de l'ombre, pour de rire peut-être, pas pour de vrai. Le soleil c'est pas le soleil, ça c'est rien que du mensonge pour les mioches, du crachat tout puant, du rat gonflé. Le soleil il est pas ce qu'il dit, ça non, pas soleil pour un sou. Ni un vrai, ni un faux. Que dalle, rien à vendre. Les chiens lui mordent ses chevilles, de soleil qui triche. Bien fait pour lui. Sa lumière trompe des gains. Voilà l'affaire. Son ombre tanquée dans les caniches du souffle éclaire que le souffle des chiens sans ombre. Nous, on étouffe ici. Et puis c'est tout. Et ses fausses grimaces de lumière, oui, n'impressionnent plus. Et lui, avec son vieux regard de colère, il touche plus aux cuisses d'aucune petite. Même mortes, les petites. Soleil, bah c'est pas la lune non plus, ça non. Encore qu'il aimerait bien. Bien mettre des culottes de lune, des robes de lune à paillettes, toutes tricotées d'espoir. Mais non, et c'est bien fait pour sa gueule de truc inachevé. Je le sais, c'est pas du flan. On rigole pas avec ça. La vraie monnaie existe, oui, comme qu'ils disent les vieux indiens. Le soleil qui est pas le soleil, on l'enterre chaque jour. Avec des yeux qu'on fait ça à nous autres, juste là, à côté de demain, à bras le corps.
Alors Laura a choisi un autre passage. Redites peut-être le titre, hein.
Qu'espères-tu encore atteindre si loin en toi ? Vois ce dont se nourrissent les nuages. Le bleu qui se terre au plus profond du sel. La lumière qui roule au fond du fleuve. Entre les pierres dénouées. Nuages assoiffés de vide. Piliers du ciel. Se joint de la gravité et des horizons finis. Nuages qui englobent. Passeurs d'immensité. Nuages affamés. Se nourrissant du néant.
Merci Laura. Troisième extrait. Rêve lu par Arthur.
Du coup, c'est le poème Rêve. Ouais, perspicace. La nuit, je trempe ma langue dans mon ventre, parfois. Je lèche et pioche dans un gouffre de ferraille. Le ruisseau d'un autre corps est léché, ainsi, la nuit. Une alouette espionne dans mon ventre. Elle, c'est un cri, parfois. D'autres fois, un autre cri. L'alouette, la nuit, parfois. Dans un corps à moi, la nuit, l'alouette, une voix mienne. Et pourtant, impropre à toute communication. La nuit, parfois, une voix qui pousse. La nuit, dans mon ventre, et fouine frénétiquement, parfois. La viande souffre si picore, si gratte trop, si l'oiseau, des ouvriers de l'âme, dévore. Ils viendront réparer, tant bien que mal, le corps. Il faut recoudre la nuit du ventre, parfois, Alors, la nuit, je trempe ma langue dans mon ventre la nuit, parfois. Une langue de silence, si lèche, si poche. Je souffre. Dans mon ventre, je souffre. La nuit est léchée, est piochée, bêchée, parfois. Le gouffre s'ouvre. Tout rouge la nuit. S'écoule un autre corps, un corps de nuit tout rouge. Je touille avec l'oiseau. Le ruisseau frétille rouge, s'ouvre la ferraille, parfois. Avant la nuit, la trouille, parfois. La nuit, je trempe ma langue, dans mon ventre ou dans mon cœur. J'y lèche le gros cœur lourd, lourd, trop lourd, qui frotte par terre, qui trotte dans les flaques sans étoiles. Le cœur pioché, signalé par le sang, le ruisseau d'un autre corps. Corps corail, corps citron, pressé, citron, vert. Dans un corps à moi toute la nuit, tient à peine, elle trempe la nuit, dans un corps en cri, parfois. La nuit, une voix mienne, sans corps, ni cœur, parfois. Une langue, impropre à toute communication, fait taire l'alouette qui grattait, léchait, piochait, picorait. L'alouette, parfois, en vain, fouine dehors. Maintenant, plutôt que rien, plutôt que parfois mettre en marche et mettre en rage, nous marcherons avant la nuit, trottant, piochant, grattant, léchant dans les ruisseaux d'autres corps séparés, aux aussi de la nuit des corps, nous les lécherons dans le ruisseau, les gratterons dans le ruisseau et dévorés dans le ruisseau, dévorés par le ruisseau. Ils retourneront au rêve, la nuit, dans mon ventre, en ruisseau éparpillé, une coulée de nuit brune pour oublier, je marche sur des morts. Sur des morts. Je marche. Pour évoquer la boue rouge, et molle où tremblent mes bottes de coupable. Je traverse les croix, je cherche un nom. La nuit, trois lettres. Un nom, un ami. Oublier des lettres. Exiler des terres des lettres. La nuit, parfois. D'encre, de feu, de nuit, parfois. Un habitant de l'infini. Je marche sur des flèches. Contresens de la lumière, à contresens, j'empointe au ciel ces miroirs, brisés. Je remonte un fleuve crié de lucioles, une tombe de braise où apprendre le brasier, entre ici et ici. Je suis ailleurs, entre ailleurs et ailleurs et ailleurs, je suis entre ici et ici. Dans un Dieu vivant, ouvert, proche, pioché dans ton ventre la nuit où tu trempais ta langue, parfois. Dans le gouffre, dans un brouillard dénoué de blancheur. Avec une tête de linotte, une grimace, babouine, un œil gouaché de bleu, la limace aux lèvres du temps, affrontant le miroir camouflé en toute lumière. Dans un puits d'ombre, la nuit me matraque, tout en friche, tout épars, tout sauvage matraque, me matraque, matraque la nuit. L'eau se glisse dans l'eau pour se séparer d'elle-même, dans sa tunique d'infini, s'ouvre le miroir séparé du miroir. On enterre les oiseaux dans les arbres. La nuit, parfois, tout en haut, des arbres, avec les dents, dans la terre, jusqu'en haut. De l'arbre, un volcan de pierre silencieuse, le poumon élargi par l'angoisse où pulse et siffle, une douleur, poire pressée, quasiment vidée, truffée de gouffres liquéfiés. La nuit, parfois, des poutres engoncées dans des gossiers de singes. La nuit, un arrière-goût de ferraille orange. La nuit, déjà pousse des racines de rouille improvisée. La nuit, de la mort dans mon ventre, hissée, fière de mon goitre à ma glotte, hissée, une boue de miel abricot. Une coulée jaune-orange pour engorger. La nuit, pour engloutir, disparaître. Le dedans d'un corps de gouffre.
C'est un texte réécrit, vous pensez, Lenny ? Oui, oui, c'est possible, hein, effectivement, qu'on redécouvre d'une autre manière les textes qu'on écrit. Alors, Héloïse va nous proposer une autre version de Pour de Faux aussi, si elle veut bien venir. Voilà.
Soleil, c'est pas le soleil. Il fait semblant. Il dîne avec des chiens, dort avec des croix. Faut pas croire qu'on achète la lumière avec de l'ombre. Pour de rire, peut-être. Pas pour de vrai. Le soleil, c'est pas le soleil. Ça, c'est rien que du mensonge pour les mioches. Du crash à tout pion. Du rat gonflé. Le soleil, il est pas ce qu'il dit. Ça, non. Pas soleil pour un sou. Ni un vrai, ni un faux. Que dalle, rien à vendre. Les chiens lui mordent ses chevilles de soleil qui trichent. Bien fait pour lui. Sa lumière trompe des gains. Voilà l'affaire. Son ombre tanquée dans les caniches du souffle éclaire que le souffle des chiens sans ombre. Nous, on étouffe ici. Et puis c'est tout. Et ces fausses grimaces de lumière, oui, ça n'impressionne plus. Et lui, avec son vieux regard de colère, il touche plus aux cuisses d'aucune petite, même mortes les petites. Le soleil, ben c'est pas la lune non plus. Ça non. Un corps qu'il aimerait bien. Bien mettre des culottes de lune, des robes de lune à paillettes, toutes tricotées d'espoir. Mais non. Et c'est bien fait pour sa gueule de truc inachevé. Je le sais, c'est pas du flan. On rigole pas avec ça. La vraie monnaie existe, oui. Comme qu'ils disent les vieux Indiens. Le soleil qui est pas le soleil, on l'enterre chaque jour. Avec des yeux qu'on fait ça, nous autres. Juste là, à côté de demain, à bras le corps.
Merci Louise. Donc on va passer à un autre temps, Kenny, sauf si vous voulez faire un commentaire sur les lectures du groupe.
Je vous enverrai tous mes textes, si c'est possible.
Alors, donc on va passer au questionnaire qu'ont concocté les étudiants pour un petit peu débusquer les secrets du poète. Et la première question va être posée par... pardon ? Oui. C'est possible, oui. La première question donc, va être posée par Sophia. Non, excusez-moi, je me suis trompée parce qu'en fait, on a quelqu'un qui a un impératif. J'avais oublié. Maxime.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont influencé votre poésie ?
Ouais, plein. Je fais une liste. Je t'en dis plein.
Petite et nous expliquer pourquoi, si c'est possible. Un petit peu.
Il y a ceux que j'ai lus en premier, tout au début, comme Arabal, Breton, Artaud, Michaud. C'est les premiers poètes que j'ai lus. Du coup, beaucoup de choses qui tournaient autour du surréalisme ou les courants qui étaient proches à l'époque. Puis j'ai lu plein de trucs différents après, j'avais marre de lire de la poésie. Donc du coup, j'ai lu beaucoup d'auteurs américains, tous ceux de la Beat Generation, Burroughs, Ginsberg, pas trop Kerouac. Leur pote canadien, comment il s'appelle non, ça me revient pas. Ouais, beaucoup d'auteurs français, des romantiques, Dorévilly, Mirbeau, quoi d'autre, Pessoa. Et... Ah, salut Catherine. C'était quoi encore la question ?
Comment ?
C'était quoi la question ? Ah oui, et pourquoi ces auteurs ?
Oui, pourquoi ?
J'ai l'impression qu'il y a certains auteurs, quand on les lit, on ne peut plus écrire de la même façon après. Parce qu'ils ont un style très fort, comme Céline, ou Burroughs, ou Régent du Charme. Et c'est des auteurs qui. Ou Beckett aussi, par exemple. Et souvent, c'est plus que ce qu'ils racontent, c'est leur écriture et le style, et comment ça va m'ouvrir des façons d'écrire après qui m'intéressent. Souvent, il y en a plein qui racontent de la merde, mais comme ils écrivent très bien, c'est chouette. Enfin, on apprend beaucoup plus.
Alors, moi, je suis étonnée que dans la liste, il n'y ait pas Émile Césaire, comme vous êtes martiniquais. Mais peut-être que, justement, il faut s'affranchir d'une telle référence.
C'est quoi la question ? Oui, j'ai beaucoup lu ouais, toute la poésie de Césaire.
Et vous en pensez quoi ?
J'aime beaucoup. Mais ouais, j'en ai plus depuis très longtemps. Et je ne veux pas en relire tout de suite.
Ensuite, est-ce que vous avez des habitudes d'écriture ?
Alors, je peux raconter une histoire pour vous expliquer ? Vrai. En fait, moi, j'ai fait des études de cinéma à l'origine. Et donc, du coup, j'avais découvert Jodorowsky. Je ne sais pas si ça parle à personne. Si. Et il avait été refusé au groupe surréaliste. Il avait fondé son propre groupe avec ses copains Arabal et Topor. Et par le cinéma, j'ai découvert Topor qui était dessinateur et Arabal qui était réalisateur et aussi poète et dramaturge. Et je devais garder une maison pendant les vacances. C'était une maison de gens communistes mais riches. Et oui, étrangement. Et ils avaient une immense bibliothèque avec un livre d'Arabal. Et du coup, je me suis dit que je pouvais leur voler, que ça leur... qu'ils étaient communistes, ça leur ferait rien. Du coup, je leur ai volé leur livre, qui d'ailleurs était édité chez les gens qui m'éditent maintenant, Maelstrom. Et du coup, j'ai lu ça, ça s'appelait La pierre de la folie. C'était son premier recueil, édité au groupe surréaliste. Et j'ai lu ça, et ça m'a complètement bouleversé. Et j'ai voulu commencer à écrire moi aussi. Parce que j'avais des problèmes, j'avais arrêté de faire des choses et je devais remplacer par autre chose. Et je me suis mis à écrire, et Jodorowsky racontait qu'il fallait écrire tous les jours. Qu'il s'inspirait des moines, je ne sais plus quelle religion, bouddhiste ou un truc du genre, qui doivent écrire tous les soirs un poème et que ça va être le plus beau, parce qu'ils vont peut-être mourir pendant la nuit. Et c'était à 11 ans, je pense. Et je me suis mis à écrire, du coup, tous les jours, tous les soirs, depuis. Et j'ai pas encore raté un jour. Voilà. C'était ça la question ?
Oui, oui. Okay. Et une dernière, pourquoi vous avez choisi la poésie et pas notre. Et pourquoi pas le roman ? Enfin, pourquoi la poésie ? Du coup, ça rejoint un petit peu la question d'avant.
La poésie, parce que je l'ai découverte à un moment donné. Et aussi, ça permettait aussi. D'écrire quelque chose et de le terminer. Je supporte pas de commencer quelque chose et de pas le terminer, ça m'angoisse super fort. Et là, j'ai essayé d'écrire un roman cette année d'ailleurs, où d'ailleurs il y a de la poésie dedans, j'ai pas réussi à faire que du roman. Mais dans le roman, j'avais une vraie angoisse de commencer quelque chose et de pas savoir comment ça allait terminer. Alors qu'avec la poésie, je peux chaque jour commencer quelque chose et le terminer. Même si après, il faut toujours revenir dessus, le retravailler, c'est pas définitif. Mais je suis quand même soulagé de savoir que c'est pas en suspens. Et avec le dessin aussi, comme je dessine un peu, j'ai le même rapport. Quand je commence un dessin, je le laisse pas dormir. Voilà.
J'en avais plus de questions. Merci. Non, c'est ça.
Alors, une autre série de questions. Donc, je reviens vers Charline.
Alors moi, je voulais savoir si vous aviez un jour rencontré quelqu'un qui vous a aidé dans l'écriture, comme une sorte de mentor.
Plein. Dans l'écriture même, ou je peux préciser ta question, ou dans le ou que ça a participé au fait que j'ai pu écrire.
Ah oui, c'était plutôt ça.
Ben, Arabal, je l'ai vite rencontré au final, le type dont je parlais avant. Il est venu en Belgique projeter un de ses films, qui s'appelle « J'irai comme un cheval fou ». Et je lui ai proposé de lui envoyer un poème. Et dans la semaine qui suivait, il m'invitait chez lui. Il fait des genres de rencontres avec ses amis artistes parisiens, où il invite tout le monde à. Il est comme un Christ, comme ça, au milieu, sous un tableau de la Seine, avec tous ses amis, Agia Beckett, Kafka, je sais plus, plein de gens comme ça, Picasso. Et il essaie de reproduire ça aujourd'hui, mais ça a un peu moins d'allure. Et il m'invitait régulièrement tous les mois dans son appartement. Puis il y a eu une autre dame aussi qui corrigeait tous mes textes au début, qui s'appelle Michel Dujardin. Et je lui envoyais, c'était la mère d'un copain qui était écrivaine et son mari était éditeur. Et je lui envoyais tous mes textes, elle les corrigeait tous en me disant là c'est trop long, là il faut resserrer, là ça se répète, là non, garde que ça. Et ça a duré pendant pas mal d'années. Il y a Catherine qui m'a beaucoup aidé aussi. Autrement.
Ok, bah merci. Alors, je vais donner la parole maintenant à Emma.
Alors moi, je voulais savoir comment vous vous êtes lancé et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture ?
Comment je me suis lancé ? Je me suis mis à écrire et à lire beaucoup et à écrire tous les jours.
À quel âge ?
On est indiscret. 20 ans, je pense. Je crois que ça fait 10 ans, donc du coup, je crois que j'avais 20 ans. Et en fait, alors... À l'époque, je fumais beaucoup d'herbes et ça m'avait rendu malade à la fin. J'avais des hallucinations, c'était horrible. Et j'ai dû arrêter parce que c'était pas vivable. Et j'ai toujours besoin dans ma vie de consommer les choses. Que ça soit n'importe quoi. Quand j'étais plus jeune, j'étais fan de foot. Je regardais des matchs tout le temps. Quand j'étais plus petit, ma mère achetait du thé en grains. Je le finissais par le manger. Enfin... toujours besoin de faire les choses dans l'excès et dans l'ivresse. Et quand j'ai arrêté de fumer, j'avais besoin de remplacer par autre chose. Et ça trouvait que l'écriture est arrivée à ce moment-là. Et ça permet de recentrer énormément les choses intérieures, l'écriture. Et ça m'a fait énormément de bien. Puis beaucoup de mal après.
Vous avez eu une phrase un peu énigmatique. Ça m'a fait beaucoup de mal après, mais on y reviendra peut-être. Alors, je vais passer la parole maintenant à Alice.
Alors, en fait, en cours, on a vu vos poèmes écrits sur la base des dessins de l'illustratrice Claire Morel. Et du coup, je voulais savoir en fait comment c'était, au niveau du processus artistique, en fait, comment ça s'est fait. Est-ce que vous avez vu ces dessins avant et du coup, vous avez composé vos poèmes à partir de ces dessins ou alors vous avez travaillé vraiment ensemble ?
Moi, Claire, j'ai rencontré qu'une fois, il y a longtemps, il y a 2-3 ans, peut-être 4 ans. Sinon, on échange essentiellement sur Facebook. Et on a travaillé longtemps avant de se rencontrer, comme la plupart des gens avec qui je travaille. Je vous montrerai les livres après. Je l'ai rencontré même après que le livre ait été publié. Et en général, et avec Claire aussi, c'est toujours dans les deux sens. Quand elle a un dessin, elle me l'envoie, ou quand j'ai un texte, je lui envoie. Mais en général, c'est plutôt moi qui la sollicite, vu que j'ai des textes tous les jours. Donc, j'ai de quoi l'embêter régulièrement. Et aussi l'intérêt des collaborations, c'est que l'écriture c'est vachement solitaire et c'est chouette, mais des fois c'est un peu chiant aussi. Et dans ces collaborations, ça permet de partager plus directement avec d'autres artistes nos univers. Je sais pas si c'était dans ta question, je crois.
Oui, je pense que ça répond tout à fait à nos interrogations. Donc Mathieu va un petit peu poser plus en détail une question sur votre manière d'écrire, Kenny.
Ça marche comme ça ? Ouais, ok. En cours, on a étudié plusieurs de vos textes et il s'est avéré dans nombre d'entre eux qu'il y avait une dimension assez imagée, il y avait beaucoup de visuels. Et je voulais savoir d'où venait cette volonté d'incorporer beaucoup d'images et de visuels dans vos textes, de manière générale.
C'est une bonne question, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai traduit un de mes textes. Non, je n'ai pas traduit. Ma sœur a traduit un de mes textes en créole. Et elle m'a fait réaliser que la langue créole, c'était uniquement des images. Tout s'exprime par des images. Et ça pourrait être... lié à ça. Après, la poésie en général, depuis très longtemps, pas depuis toujours, utilise essentiellement les images pour évoquer les sensations ou les émotions. Donc, c'est pas si singulier que ça, je pense.
Et du coup, incorporer des images et un peu le visuel dans tous vos textes, c'est un petit peu... c'est la manière dont vous procédez, c'est ça ?
En fait, j'aimerais bien raconter mes rêves, mais les rêves s'intéressent personne parce que c'est très personnel. Et quand tu racontes un rêve, t'as eu un cauchemar et tu vas le raconter et ce serait complètement ridicule. Et avec la poésie, il y a moyen de rendre ces hallucinations, ces visions et de partager de ce monde-là.
Voilà. Merci. Merci, ça répond à ma question.
Merci pour cette question. Alors, ensuite, nous passons à une question d'Arthur qui va revenir à nouveau sur la collaboration avec Claire Morel, mais de manière un peu différente.
Bon, du coup, ça reprend un peu la question de la demoiselle. J'ai oublié ton prénom. Du coup, je voulais savoir dans quel but vous vous êtes associé à justement Claire Morel pour imager vos poésies. Vraiment, peut-être une genèse de cette volonté d'imager vos poèmes avec ces illustrations-là et pas d'autres.
Je vais faire une autre réponse. Sinon je répétais. Il y a aussi le fait que on vit dans un monde où les gens font beaucoup plus attention à l'image qu'à l'écrit. Et en travaillant avec des plasticiens, ou même comme hier avec l'autre Catherine, il y a quelque chose qui interpelle plus aujourd'hui dans l'image que dans le texte seul, où beaucoup de gens prendraient pas le temps de s'arrêter s'il y avait uniquement du texte, parce que c'est rébarbatif, c'est fatigant, ça demande un effort. Et le fait qu'il y ait une image, ça permet à des gens aussi de se raccrocher à un univers, à un monde, et d'avoir que les gens ont besoin de comprendre. Et l'image leur donne un sentiment de savoir où ils sont dans ce monde. Et c'était inconsciemment, je pense, une des raisons qui m'a poussé à travailler avec Claire.
Et du coup, je vais poser une autre question. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement, il n'y a pas forcément une nécessité, enfin vous en tout cas peut-être que vous l'avez vu comme ça, mais est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une nécessité à imager une poésie qui finalement peut à elle-même seule être image?
Non, c'est pas du tout une nécessité, ça dépend si tu veux partager plus largement ce que tu fais ou pas, mais c'est pas une nécessité du tout, même je pense que c'est une mauvaise idée, mais il y a des avantages. Exact, j'osais pas le dire.
Voilà, merci.
Et puis c'est drôle aussi.
Merci à Arthur pour ces questions. Alors maintenant, à présent, on va passer à Kenza qui essaye de sonder une interprétation du rêve avec une influence éventuelle. J'ai lui passé la parole. Non, mais on s'est posé la question, voilà. Oui.
Alors moi, ma question, c'était de savoir que, outre vos autres inspirations littéraires, donc on a évoqué tout à l'heure, est-ce que vous considérez Martin Luther King comme une inspiration littéraire et ou identitaire, notamment par la construction anaphorique et la thématique du rêve dans le poème Le Rêve?
Non.
En plus, j'en étais sûre. Parce que quand j'ai lu le poème, ça m'a directement fait penser à ça. Parce que par la structure, etc., ça m'a vraiment fait penser à ça.
Je ne sais pas ce que fait Martin Luther King, je suis désolée.
Je suis déçue, là.
Mais est-ce qu'il a une influence Non, aucune. Non, je m'en fous complètement de Martin Luther King. Désolée.
C'était bien une interprétation personnelle.
Désolée Kenza, oui, j'ai osé émettre quelques réserves, mais Alors donc oui, effectivement, il me semble que vous intervenez demain soir autour des Black Panthers. Et alors là, ce courant-là...
C'est sur le rêve, non ?
Ouais.
Demain ?
Ouais.
C'est mais sur le rêve... Dans la tête ?
Ouais.
C'est pas le...
Mais est-ce que c'est un, est-ce que cette influence-là est réelle ou pas du tout ?
Non, aucune.
Aucune, d'accord. Le hasard de la programmation, on va dire, qui suscite notre question. D'accord. Alors, on va passer la parole maintenant à Marie. C'est parce que la soirée est dédiée à Martin Luther King. Mais oui, voilà. Donc, on a essayé de décrypter éventuellement des références éventuelles, mais pas du tout, pas du tout. D'accord. Bon, c'est ça qui est amusant aussi dans la vie. Hein, c'est effectivement...
C'est l'anniversaire,
Ouais, d'accord.
Je vous passe la parole pour
expliquer. C'est un peu comme ça, des fois, les soirées poésie, il y a des thèmes. Et puis après, on quiche un peu les poètes pour qu'ils, pour qu'ils prennent la forme du moule. Mais avec Kenny, il n'y a pas de problème, il ne la prendra pas.
D'accord. Alors, donc ensuite, je reviens vers Marie qui va donc poser une question un peu différemment de celle qui avait été posée précédemment.
Alors, en effet, ma première question, c'était quelles sont vos sources d'inspiration au quotidien ? Est-ce que c'est par exemple voir un coucher de soleil va vous inspirer ? Voilà.
Je crois pas trop à l'inspiration. La lecture, ça, on peut considérer ça comme une source d'inspiration, mais c'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, au niveau du style que c'est inspirant. Je sais pas d'où ça vient. J'ai toujours eu l'impression que les textes étaient déjà écrits et qu'il fallait juste être à l'écoute pour les retranscrire de notre mieux. Mais que c'est pas moi qui écris. Mais ouais, sinon, inspiration, je sais pas trop. Ma grand-mère avait son prénom, c'était le nom d'une muse. Elle était sage-femme. Et c'est celle qui m'a accouché. Peut-être que c'est ça l'inspiration. Je sais pas.
Et du coup, ma deuxième question, c'était plutôt par rapport à votre travail dans le cinéma. Du coup, comment vous différenciez le travail d'écriture d'un court ou d'un long métrage et l'écriture de poésie ? Est-ce que vous travaillez de la même façon ou est-ce que vous avez une autre habitude ? Est-ce que vous travaillez...
Est-ce que je travaille différemment quand... Oui. Là, j'étais à Marseille la semaine dernière. On a travaillé avec des amis sur l'écriture d'un dessin animé, un scénario de dessin animé. Déjà, écrire à plusieurs mains, c'est pas possible. Dans le cinéma, ou le dessin animé, ou ce genre de choses... Il y a moyen de faire du brainstorming et de faire du jeu au final et de s'amuser en inventant des mondes. Mais ouais, ça n'a pas grand chose à voir, je trouve. Donc du coup, je pourrais pas donner des points communs entre les deux.
Enfin, ma question, ouais, après, c'était plus dans l'idée, est-ce que vous exprimez votre art et votre style du coup de la même manière ? Je sais pas.
Ça raconte les mêmes choses ? Mais il y a des choses que l'écriture permet de raconter et que qu'inversement le cinéma permet de non je suis perdu que le cinéma permet de raconter des choses que l'écriture permet pas de raconter et j'ai remarqué dans les différents courts métrages que j'ai fait qu'il y a des choses que je racontais que dans les courts métrages et qui revenaient tout le temps dans tous mes courts métrages il y a toujours un couple c'est un truc un peu jungien comme ça avec un peu d'archétypes, l'animus et l'anima. Et j'ai remarqué qu'il y avait ça dans tout ce que je faisais. Alors que dans ce que j'écris, c'est toujours une voix. Il n'y a pas deux personnages, c'est un personnage. Donc du coup, il n'y a pas ce rapport entre un personnage homme et un personnage femme, par exemple.
D'accord, Bah, merci beaucoup.
Merci et... Marie.
Ah oui. Oui, et pendant longtemps, j'avais plus de mal à exprimer de la violence ou des choses sombres dans ce que j'écrivais. C'est souvent très bleu et guimauve. Alors que j'ai tout de suite eu plus de facilité avec les images ou au cinéma à raconter ce genre de choses.
Alors, une autre question qui va être posée par Emma.
Alors, je voulais aussi savoir si vous aviez des causes qui vous tiennent à cœur, auxquelles vous êtes engagée ou...
Aucune cause.
D'accord.
Non, je trouve que les causes, c'est toujours des choses très fausses. Et c'est souvent pas les nôtres. Et je crois qu'on s'ennuie tous vachement et qu'on a besoin de choses pour s'occuper. Et qu'une des meilleures choses pour s'occuper, c'est d'avoir une cause. Et le problème avec les causes, c'est que ça ne nous appartient pas. Et je trouve ça triste. Donc j'ai pas de cause du coup.
D'accord, merci.
Merci Emma. Une autre question.
Ou alors, si on peut avoir une cause, il faut en changer tous les jours.
Ah, bon, ça, c'est difficile, ça.
Et qu'est-ce... Et qu'elles soient contraires entre elles. Que le problème des causes, c'est que ça t'oblige à te conformer. Et à... je crois que les êtres humains sont fondamentalement paradoxaux et contradictoires. J'ai fait une faute. Non. Et dans les causes, par exemple, si t'es végane, tu peux pas aimer des choses qui font partie de toi. Et le but, c'est pas d'être le plus rétréci, c'est d'être le plus vaste possible. Et je trouve que les causes, ça nous rétrécit. Je suis facho, ben je pourrais pas faire ci. Je suis Black Panther, ben ça, je pourrais pas le faire. Et je trouve ça chiant, quand même. Ça réduit la liberté qui on pourrait être.
Donc la figure de l'intellectuel engagé, telle qu'on l'a connue précédemment...
Non, j'aime pas du tout.
D'accord.
Ben, y en a que j'aime bien. Parmi les gens, plein de gens qui ont été engagés, que j'adore. Ouais. Moi, l'écriture, un des premiers contacts que j'ai avec l'écriture, c'était par le rap, qui est une musique profondément engagée. Et j'ai écouté du rap toute mon adolescence, on écoute encore aujourd'hui. Mais c'est plus l'énergie qu'il y a dedans qui m'intéresse que le message de Kiri James ou Rocking Squat ou je sais pas qui.
Très bien. Alors, Héloïse va aussi vous poser une question. Enfin, plutôt, elle va affirmer quelque chose et elle va attendre votre réaction.
Okay. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous, ça veut dire quoi être poète au XXIe siècle ? Point d'interrogation. Alors, je ne veux pas un oui ou un non. Hein.
Je ne me suis jamais dit que j'étais poète. Donc, du coup, je vais avoir du mal à répondre à la question.
Pourtant, en classe, on vous a présenté en tant que poète, on vous a vu en tant que poète.
Oui, et... mais c'est pas de ma faute. Et ouais, j'adore la poésie, mais encore, c'est des définitions. Je sais pas ce que c'est, moi, poète. Moi, j'aime bien écrire. Après, c'est vrai qu'il y a des codes dans la poésie. Et je sais plus qui parlait de ça, des images. Et c'est vrai que on peut dire que c'est de la poésie. Mais moi, je me dis pas que j'écris de la poésie. Puis, je sais pas, poète, c'est un peu... je sais pas. C'est. Il y a moyen d'en tirer de la fierté chez certaines personnes, dans certains milieux. Je trouve ça un peu ridicule, dire je suis poète. Je suis pas poète, je sais pas.
Vous êtes pas poète, alors ?
Non.
Vous écrivez juste des vers, c'est ça ?
J'écris pas de vers.
Ok, vous écrivez juste des poèmes, alors ?
J'écris.
Ok. Ça marche.
Ouais. pas toujours.
Ok, ça marche.
Et c'était quoi la question ?
Ça veut dire quoi être poète au XXIe siècle ?
Si on ne l'applique pas à votre cas.
Faire quelque chose qui intéresse peu de gens et qui ne rapporte pas d'argent.
D'accord.
Merci, Louise.
Alors, une autre question que va vous poser Laura. Vous y avez un tout petit peu répondu, Kenny, mais je pense que vous allez compléter la réponse.
Alors, tout au long de votre carrière, vous êtes illustrée dans différents domaines artistiques, tels que la poésie, les documentaires, le cinéma. Est-ce que vous avez le même objectif pour chacun de ces domaines ? Enseigner, divertir ou autre ?
Moi, j'ai toujours eu l'impression que l'écriture, spécialement, et les autres formes d'art aussi, consistait plutôt en des moyens d'exploration ou de restitution d'exploration, comme l'exploration du rêve, de la psyché, de ce qu'il y a dans ta tête et de ce qu'il y a au-delà, surtout de ce qu'il y a au-delà. Et j'ai toujours vu ça comme à la fois la carte sur laquelle on pose des coordonnées qui permettront à d'autres gens d'y aller après, et le moyen de se déplacer, le bateau, la caravelle. C'était quoi la question ? J'ai du mal à me rappeler des questions.
Est-ce que vous avez le même objectif pour chacun des domaines artistiques ?
Oui, et l'objectif, enfin, s'il y a vraiment d'objectif, que ça c'est quelque chose que je dis après, donc c'est sûrement faux. Je crois que les choses sont premières et que les tentatives d'explication sont intéressantes sur ce qu'elles racontent et ce qu'elles permettent d'évoquer, mais qu'on sait les choses avant de les faire et que c'est très compliqué d'en parler et que c'est même impossible d'en parler. Alors j'ai inventé cette histoire-là que je viens de te raconter, mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai.
D'accord, merci.
Merci Laura. Je vais donner à présent la parole à Florine.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je voulais savoir, quand vous écrivez, si vous choisissez votre thème à l'avance ou une forme d'écriture, ou si c'est spontané lorsque vous vous mettez à écrire.
En général, quand j'ai de la chance, c'est des trucs qui me sont venus pendant la journée que j'ai notés dans un carnet. Et je pars de ça en général. Quand j'ai pas de chance, je dois partir d'un mot et tricoter à partir de là. Comme c'est une obligation, je dois écrire quelque chose, donc je dois me débrouiller. Donc, ça a encore oublié la question. C'était quoi la question ?
Pour la forme, mais aussi le fond, quand vous écrivez des textes, si vous choisissez des thèmes volontairement ou si ça vient juste comme ça.
Il y a des choses récurrentes, comme du coup je dois écrire tout le temps, donc il y a des choses sur lesquelles je m'appuie tout le temps. Il y a des personnages ou des mots que j'utilise comme le chien, Lionel Jospin, la réglisse. Et je m'appuie sur ces choses-là. Des fois, je réutilise des choses que j'ai déjà faites pour pouvoir repartir. J'ai encore oublié la question. J'ai répondu ou pas ?
Alors que d'autres fois, ça vient comme ça.
Ouais. Voilà. Il y a des choses, des fois, qui s'imposent. J'écris souvent en rêvant. Je me réveille avec des phrases déjà toutes faites. C'est assez pratique. Ça fait moins de boulot.
Merci. Quand vous dites je me réveille tout de suite en ayant inventé déjà ce que je vais écrire, ça me fait penser à Lenny Kravitz, que j'entendais sur France Inter, qui disait que son dernier album, il l'avait écrit, composé en rêvant. Comme quoi la nuit est riche pour les artistes. Hein. Alors, ensuite, Younes désire un petit peu vous interroger sur votre œuvre cinématographique.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai plusieurs questions, donc je vais poser une par une. Je voulais savoir, comme ça vous aider, je voulais savoir comment vous définirez-vous votre style cinématographique ?
Je peux parler de mes influences ?
Ah bah, j'allais vous poser une question sur les influences après.
Parce que, au cinéma, comme j'ai fait moins de films que j'écris de poèmes, et j'ai l'impression que plus tu produis, plus tu pratiques, plus tu peux un peu sortir des influences, ou plus tu as d'influences aussi au fur et à mesure, plus elles se mélangent dans la pratique. J'ai fait beaucoup moins de films, du coup, mes influences sont beaucoup plus visibles et je me gêne pas du tout pour imiter. Et par exemple, le dernier court-métrage de fiction que j'avais fait était très largement inspiré de Lynch et de Jodorowsky, par exemple.
Donc Pour vos influences, ça serait Lynch et Jodorowsky, par exemple.
Par exemple, ou le dernier, pendant qu'on faisait le tournage chez Arabal, je revoyais tous les jours un film qui s'appelle « Lettre d'un cinéaste à sa fille » de Eric Powels. Par exemple. Ou ouais. J'aimerais bien faire des films comme Herzog, mais je sais pas comment il fait.
D'accord, très bien. Et du coup, c'est vous qui vous, enfin, vous dirigez donc vos acteurs, c'est bien ça ?
Ouais.
Et comment vous procédez du coup ? Est-ce qu'il y a un rapport, je sais pas, très strict, ou alors est-ce qu'il y a une volonté de vouloir créer un contact et d'échanger avec l'acteur ?
J'essaie de les mettre mal à l'aise, qu'ils fassent des choses qu'ils ont pas envie de faire.
D'accord. D'accord. Ça marche, hein, Larry Clark qui faisait ça, donc.
Ouais, mais bon. Je vais pas jusque là quand
ouais,
même.
Ouais, faut voir. Ouais, c'est clair.
Pas dégueulasse. Ouais. Ouais.
D'accord. Et je voulais savoir aussi, est-ce que ça vous arrive de jouer aussi ou pas ?
Non, je déteste ça.
D'accord.
Ça, je suis très mal à l'aise en ce moment.
D'accord, très bien. Et comme dernière question, je voulais vous savoir, donc j'ai entendu dire que vous avez fait une école. Je voulais savoir si vous considérez qu'il y a une nécessité de faire une école de cinéma pour entrer dans le monde du cinéma et pour produire, ou alors vous en sortez
Mon école se faisait en 3 ans, je l'ai fait en 6 ans. J'ai D'accord. tout redoublé. Et je détestais ça. Et j'ai eu un diplôme, au final, j'ai jusqu'au bout, qui m'a servi à rien.
Ouais.
Donc, après, tu rencontres des gens. Ce qui est chouette dans les écoles, c'est ça, c'est de rencontrer des gens avec qui tu peux partager et bâtir des projets. Mais en dehors de ça, non.
Mais c'était une école privée ou publique ou...
Privée.
D'accord. Ouais, c'est d'accord. D'accord. Très bien. C'était quelle école ?
L'INRACI, à Bruxelles.
Ok.
J'ai essayé les concours en France, j'ai pas été pris.
Donc vous avez en quelque sorte payé pour avoir des contacts. Enfin, en gros, l'école vous a servi. L'école vous a servi juste à avoir des contacts, ou alors le diplôme du coup il vous a pas grandement servi, ou enfin du coup vous auriez sûrement fait des films après sans avoir passé le diplôme, ou alors vous considérez que ça vous a vraiment aidé.
Ouais, quand même. Par exemple, le dernier film que j'ai fait, que j'ai tourné sur Serge Pey. Qu'on allait tourner à Toulouse avec un copain. C'est un copain que j'ai rencontré à l'école. Enfin, qui n'était pas dans mon école, mais qu'on s'est rencontré parce qu'on était en école de cinéma. Parce que des amis à moi étaient dans son école. Donc ça sert quand même. Et j'étais bien content parce que lui, il est vraiment réalisateur. Il a plusieurs caméras, plusieurs objectifs, des trucs, comment ça s'appelle, les steadicam. Et j'étais bien content de pouvoir connaître cette personne. Donc ça sert un peu quand même.
Ok, d'accord. Bon, bah... Parfait.
Merci beaucoup. Parfois, il y a des bons profs.
Ok. Parfois, du coup.
Ouais, dans son école, à lui, il y avait des bons profs.
Ok.
Pas dans la mienne.
Tant pis.
L'autre, c'était l'INSAS. Il y avait plein de bons profs. Pas que.
D'accord, bon, merci beaucoup.
Merci pour votre intervention, Younes. Alors, Dorian va un peu élargir le champ de sa question, je crois.
Ah oui, du coup, moi, j'ai une question, c'est sur votre parcours de vie. Comment il a influencé votre œuvre ? Par exemple, les pays que vous avez visités, France, Belgique, j'ai vu un documentaire tourné à Cuba. Comment tout ça a influencé votre œuvre, justement ?
Répétez la question.
Ah oui, c'est comment votre parcours de vie a influencé votre œuvre ?
Je considère que mes amis m'ont beaucoup plus influencé que les voyages que j'ai faits. Et les voyages qui m'ont le plus marqué n'étaient pas des voyages dans l'espace, en tout cas pas sur les continents. Les voyages que je fais dans les rêves, notamment dans les rêves lucides, m'imprègnent beaucoup plus que le fait d'aller à La Havane ou à Rio. C'est chouette de rencontrer des gens, mais je ne saurais pas dire en quoi ça m'a influencé, alors que je pourrais te dire pourquoi les rêves m'ont influencé.
Ah, justement, cette question, vous parlez justement des rêves lucides. Mm-hmm. Enfin, j'en ai entendu parler un petit peu, mais justement, ça vous a vraiment influencé. Vous avez, enfin, c'est un peu une pratique, un entraînement, ça, pour,
ouais.
pour arriver à ça.
Il y a un autre. En fait, quand j'étais petit, mon père avait un livre qu'il lisait tout le temps. Il y avait. Ma maison était remplie des livres de cet auteur qui s'appelle Carlos Castaneda. Et de la même façon que certaines personnes ont des éducations chrétiennes, musulmanes, ou juives, ou bouddhistes, ou je sais pas. Moi, il m'a éduqué avec ce livre. avec les préceptes de ce type qui avait rencontré un chaman Yaqui, donc au Mexique, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans le désert de Sonora. Et il y a les préceptes, donc il y a le rêve, le fait de traquer, il y a le fait d'être impeccable. Par exemple, moi, quand je ramenais les mauvaises notes, mon père ne me disait pas d'être le meilleur de la classe. Il me disait, tu dois être impeccable. Donc tout ça, dès mon enfance, m'a énormément influencé. Et une des pratiques de cet auteur, pour sortir de l'homme, c'est le rêve, pour aller au-delà. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, que j'ai toujours recherché après. Deux de mes livres préférés sont Zarathustra et Don Quichotte, qui racontent des histoires très proches de ce que raconte Castaneda. Quand Nietzsche dit l'homme doit être est quelque chose qui doit être surmonté, c'est ça ? Et que Bataille le reprend, il dit qui ne meurt pas d'être un homme ne sera jamais qu'un homme. Ben ça, c'est des choses qui étaient déjà dans ce livre de Castaneda, le fait de post-humaniste, de sortir de l'homme, d'ouvrir des portes, que ce soit les portes de la perception ou celles que tu voudras. Et par le rêve, on y arrive un peu.
D'accord, Thomas. Merci.
Merci, Dorian. Alors, j'ai passé la parole maintenant à Opaline, si elle veut poser sa question.
Bonjour.
Bonjour.
À partir de quel moment vous avez commencé à publier ce que vous écriviez et est-ce que c'était difficile au début ?
Publier où ? En format papier ?
À partager.
À partager tout de suite. Quasiment tout de suite. Et à publier en papier quasiment tout de suite aussi. Jusque j'ai rencontré Arabal qui me demandait de me faire une préface et il est édité chez Maelstrom. Et comme ça m'a facilité la vie, du coup, voilà, j'ai été édité dans la première année où j'écrivais.
Donc, au début, vous n'écriviez pas seulement que pour vous, c'était dans le but de le partager et de le publier.
Oui, je n'ai jamais écrit pour moi.
D'accord.
Le média pour partager.
Facebook, c'est top. Ouais, ça permet d'avoir beaucoup plus de contact avec les gens, c'est souvent des pouces bleus, mais pas que. Puis il y a moyen de rencontrer des gens. Quasiment tout ce que j'ai pu faire, c'était grâce à Facebook. Dans tous les festivals où j'ai été invité, ou les gens qui ont pu voir mon travail, que les gens achètent peu de livres, que ça coûte cher. Et puis il y a un rapport quotidien où tu peux nouer des liens avec les gens, que ce soit des plasticiens, des poètes, des éditeurs, des gens qui organisent des festivals, des gens qui ont des radios. Et ouais, ça ouvre énormément de possibilités. Après, il y a des gens qui l'utilisent vraiment comme un nouveau moyen. Genre, j'ai une amie qui écrit tout avec des hashtags et qui envoie chaque mot, renvoie à quelque chose. Moi, je n'utilise pas vraiment Internet comme un moyen, mais ça pourrait l'être. C'est qu'il y a 1000 possibilités aujourd'hui grâce à tout ça.
Ok, merci.
Merci pour votre question. Juliette va maintenant intervenir.
Bonjour. Moi, je voulais que vous nous expliquiez ce que c'est que la pataphysique. En quoi ça consiste ?
Genre beaucoup de mal, parce que j'ai eu le diplôme par hasard. C'est une amie en fait qui est au collège de pataphysique en Italie, dont je suis très proche, et avec qui j'ai travaillé, et j'ai publié dans le Quaderno, quelque chose du genre. Mais quand j'ai reçu ce diplôme, qui était un des premiers diplômes que je recevais, j'avais jamais lu ni Ubu, ni Fostrol. Depuis, j'ai lu après. Donc je suis très mal renseigné sur la pataphysique.
Parce que moi aussi, j'ai essayé de chercher ce que c'était et il disait quelque chose du genre que c'était l'étude des sciences inutiles. Alors j'ai pas
imaginaire.
Oui,
l'étude des possibilités imaginaires, oui. Quelque chose comme ça.
Et je trouvais ça presque absurde, alors j'aurais voulu en savoir plus.
Tu veux parler de la pataphysique, Catherine ?
Parce que j'ai l'impression que personne ne sait exactement ce que c'est, mais ça a l'air fascinant, mais je... Personne ne sait.
T'es les chats de Topor ? Ouais. Mais, Après, il y a eu plusieurs époques. C'est inspiré de Jarry, si je ne me trompe pas. Puis il y a eu Pérec, il y a son ami, comment il s'appelait l'autre ? Ils étaient deux. Vian aussi était pataphysicien. Et aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'autre où ils se donnent des prix, il y a un chef, il y a un ordre de la pataphysique.
Enfin,
la grande, grande guidouille, la grande gidouille. Mais
oui,
je sais
ils
pas.
Sont apparemment, oui, excusez-moi, ils sont jamais jugés. Et ils sont, j'ai recherché, ils disaient qu'il y avait un collège de pataphysique à Paris, dans une rue précise, c'était rue Volga.
Ouais.
Et j'étais allé voir sur.
C'est Thierry Foulque, je crois, qui gère ça.
J'étais allé voir sur un plan, enfin, il y avait un plan, et puis on pouvait voir les rues, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'avais vu, et puis j'avais vu une espèce de bâtiment quelconque. Alors je dis, ça se trouve, ça n'existe même pas, ça se trouve, c'est une immense blague, je ne savais pas. Et du coup, c'est ça. Et du coup, c'est ça. Tant pis. Fin...
Tu peux contacter Arabal, lui, il s'y connaît bien, il te dira, il répond.
Ben, je veux bien, parce que c'est une énigme.
Moi, j'ai retenu une chose que j'ai lue dans les bouquins des pataphysiciens, c'est qu'on peut savoir qu'une seule chose, c'est le principe d'identité, c'est que A égale A. Et il faut le dire très vite, parce que dans la seconde d'après, c'est déjà différent.
Ah oui, je vois, ben, c'est intéressant. Oui, mais c'est...
J'ai retenu que ça. Et c'est Pump à deux, je crois. C'est un... Désolé.
Non, c'était très très instructif cette question. Basma maintenant aussi va vous poser une question qui est plus axée sur votre poésie.
Bonsoir. Alors ma question n'a plus vraiment beaucoup de sens parce que enfin vous vous définissez pas comme poète et votre poésie enfin vous ne la définissez pas comme poésie mais du coup en fait c'était comment qualifieriez-vous votre poésie ben du coup elle a changé c'est devenu comment qualifieriez-vous ce que vous écrivez
c'est toujours en lien avec ce que je lis et je lis des choses très différentes en ce moment. À une époque je lisais beaucoup Duboucher, Jacoté, Bonnefoy, Blanchot. Donc une écriture très resserrée et qui est très belle, mais qui, je trouve, aujourd'hui, avec le recul, un peu ennuyante ou ennuyeuse. Non, mais j'adore, et je ne regrette pas du tout d'avoir lu ça. Et c'est très beau. Mais avec Burroughs, par exemple, ou avec Céline, ou Ducharme, ou avec qui encore, dans ce genre-là. Une écriture très parlée, où l'argot peut avoir une place qui est plus vivante, je trouve qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus forte, m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, qui est proche des fois du flux de conscience. Où, je crois que c'est, comment il disait, Tarkov avait une phrase, il disait la différence entre le poète et le fou, c'est que le fou arrête le poète. La différence entre le fou et le poète, c'est que le poète arrête le poème. Et ben pour moi. Et Duboucher, Bonnefoy, ils arrêtent le poème, c'est des poètes. Je préfère quand le poème n'est pas arrêté. On parlait de Césaire, une écriture pour moi qui est volcanique, qui est péléenne, on dit même. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, en tout cas.
Merci.
Alors, une autre question qu'Arthur souhaite vous poser. Toujours aussi par rapport à l'estimation de votre travail. Oh, reposez-la.
Est-ce que je l'ai vraiment noté cette question ? Ah bon ? Bah, vous pouvez poser la question à ma place, du coup.
Alors Arthur, en atelier d'écriture, avait l'idée de vous demander est-ce qu'on peut parler d'échec ou de réussite quand on écrit ?
Comment ? Dans mon cas, ce sera forcément un échec. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux être Dieu, ce sera un échec. Si tu veux explorer l'infini, ce sera un échec. Mais il y aura des petites réussites quand même, et c'est pas mal.
C'est ça.
Oui, je pense que vous avez répondu à la question qui se posait, hein, n'est-ce pas, Arthur? Sophia.
Pourquoi tu as abandonné la question?
Parce que là, tout de suite, en vous identifiant par rapport à ce que vous venez de nous dire, il y a pas l'air d'avoir de réelles conditions d'écriture, ou en tout cas prérequis d'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une visée derrière votre écriture. Du coup,
il y a un besoin.
Voilà, plus un besoin qu'un but. Du coup, je pense que la question n'était pas forcément pertinente avec ce que vous ressentez par rapport à la poésie. Mais c'est vrai que c'est une question pour moi qui est légitime quand on...
Bon, c'est un échec quand... financier.
Non, bah, au-delà de ça, si on s'arrête à l'échec financier, c'est sûr qu'on ne va pas aller très loin. Mais au niveau vraiment spirituel et presque métaphysique, on peut se demander est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a vraiment une considération de l'échec ou de la réussite à travers l'écriture ou la parole poétique?
En tout cas, ça entretient le feu. Je ne sais pas si ça m'a fait avancer, mais le feu, ce n'est pas éteint. Tu parlais de considérations métaphysiques ou spirituelles que j'avais au début, je les ai encore. Et peut-être que je les aurais plus sans ça. Après, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir énormément avancé. Quand j'ai commencé, je me suis dit que ça irait plus vite, c'est qu'il y aurait des récompenses. C'est pas vraiment le cas. Mais ça entretient le feu, je trouve que c'est déjà bien d'être au contact avec les images et le rêve. Et une autre façon de dire le monde au quotidien, ça garde le feu. Et je crois que c'est quand même très important. Pour moi, c'est important.
Alors, on parlait d'argent, d'échecs financiers, et Sophia va vous poser. Il n'y a pas que ça, mais voilà. L'argent est souvent est un peu au cœur de certains projets.
Bon, je ne vais pas vous parler d'argent tout de suite. Ma première question, c'était surtout sur la mise en place en fait, du monde onirique en poésie et dans le cinéma. Comment est-ce que vous mettez en place ce monde complètement qui est imagé mais seulement dans la tête de chacun, qui est commun sans vraiment l'être? Donc comment est-ce que vous arrivez à faire ça en poésie et au cinéma, et est-ce que c'est si différent dans ces deux univers?
J'ai un temps de réflexion. Je veux bien que tu la reposes. Comment j'arrive à mettre en place,
oui.
À faire exister. C'est
comment arrivez-vous à mettre en place le monde onirique en poésie et dans l'environnement cinématographique?
En rêvant le plus souvent possible.
Ouais.
Les rêves, par exemple, ont des mécaniques très particulières qui ont peu de choses en commun avec ce monde-ci. Et j'écris pas des rêves. J'essaie pas de retranscrire des rêves. Mais j'espère qu'il y a quelque chose de la sensation du rêve qui va exister quand même. Dans les rêves, et notamment les rêves lucides, l'infini des possibles est augmenté, ça veut rien dire. Et j'essaie de garder ça quand j'écris, qu'il y a une liberté complète et... qu'on peut toucher, en tout cas.
D'accord. Okay. Et ma deuxième question, c'était justement, donc, comment est-ce que vous financez vos projets cinématographiques pour le matériel, pour...
Je demande à mes amis.
Vous demandez...
Ils sont plus riches que moi.
D'accord. Okay.
Pas tous.
Pas de crowdfunding, rien.
Si, là, on a fait une revue.
Ouais.
Avec tous les amis, tous les copains. Et on a dû faire un crowdfunding, ça coûte plein d'argent. On a voulu faire avec des dessins en couleur. Et même en passant par le Luxembourg, qui est moins cher, et on a quand même dû faire un crowdfunding.
Merci beaucoup.
Alors, il y a les questions des étudiants, puis il y a les questions du professeur. Vous avez parlé de la possibilité du fait de votre parcours personnel entre le français et le créole. Alors, pourquoi le français ? Est-ce que ça vous arrive d'écrire en créole ? Et si oui, qu'est-ce que vous écrivez en créole ?
J'écris pas en créole. Je laisse ma sœur, comme ça me donne l'occasion de plus de travailler avec ma sœur. Et c'est chouette, je suis content. Et non, j'ai jamais écrit en créole. M'arrive de donner des titres en créole à certains textes. Mais ça s'arrête vraiment là. Pourquoi le français ? Parce que c'est ma langue maternelle. Et il y a un beau livre, comme ça je ne vais pas en parler, comme ça vous pourrez le lire, qui s'appelle « Écrire en pays dominé » de Patrick Chamoiseau, qui parle de ce rapport à la langue du dominant et du maître.
Oui, ça répond en partie à la question, d'accord.
Il y avait une belle phrase de Césaire aussi, il disait, dans cette perspective aussi de post-colonialisme, je vais plier la langue française à mon bon vouloir. J'ai un plaisir un peu cruel de faire du mal à la langue française, d'écrire mal.
Très bien. Et l'autre question qu'on s'était aussi posée et que je me posais, quand on commence à écrire de la poésie, est-ce qu'on commence par une écriture très classique, comme au XIXe siècle ou avant, avec une forme fixe, un schéma de rime, ou est-ce que le vers libéré qu'on vous connaît, il est venu tout de suite, instantanément?
J'ai commencé avec les surréalistes, par lire les surréalistes. Donc, j'ai lu les poètes plus anciens bien après. Donc, j'ai pas du tout cette influence. Ça m'a jamais intéressé d'écrire en rime ou en vers. Comment ? Ouais. La métrique m'intéresse peu. Il y a un chant, je pense, de toutes les façons. Il y a une musique. Et on n'est pas obligé de passer par là, je pense. Je trouve pas ça inintéressant. Même aujourd'hui, j'ai des amis qui écrivent encore en vers et en respectant la métrique. Je trouve pas ça inintéressant, mais ça me concerne pas trop, moi.
En tout cas, tu as pas dans ton écriture un espèce de... J'ai pas envie de dire de tic, mais des fois, nous qui avons été élevés dans cette métrique de 6-6-12, là, des fois, elle vient toute seule. C'est-à-dire que tu te dis pas, je vais faire un vers, je vais faire une hémistiche, un alexandrin, machin. Mais on entend même certains performeurs qui sont sur du 6, sur du 6-6 répété, qui du coup sont dans cette espèce de musique à laquelle on est très 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 habitué et qu'on voilà, mais qui donne des fois un peu cet air entre guillemets de curé ou de voilà du prêche en tout cas, et que t'as pas du tout. Donc ça, c'est sûr que t'as pas été t'as eu d'autres influences suffisamment fortes, j'imagine, ou en tout cas ton esprit est suffisamment libre pour que s'il entend 6, il met 7 quoi, ou 8 ou 9.
Oui, du coup, on comprend mieux justement cette absolue liberté qu'on sent quand on vous lit. Alors, mon autre question, puis après, je repasserai la parole au public, c'est donc dans l'atelier d'écriture, quels conseils vous pourriez délivrer aux étudiants pour écrire ce dont ils rêvent ?
Je crois que c'est à chacun de trouver sa méthode. Pour moi, c'est important de beaucoup lire et d'écrire quotidiennement. Après, il y a plein de gens qui font autrement. Et... Alors, Serge me disait qu'il fallait écrire 8 heures par jour. Moi, je ne fais pas ça. Sinon, je ne dors pas la nuit, que j'écris la nuit. Donc, ouais. Lire, je crois que lire, c'est important. Après, j'adore l'art brut. Et dans l'art brut, c'est énormément de gens qui n'ont pas forcément eu accès à des niveaux de culture très, très élevés. Donc c'est pas essentiel non plus en fait. Mais ça apporte des choses, ça enrichit.
Quand il dit 8 heures par jour, c'est que c'est un travail. Ouais.
Ça dire, merci. J'avais pas compris. J'ai pris ça au premier degré.
Est-ce que d'autres personnes dans l'assistance veulent prendre le micro et poser d'autres questions ?
On a beaucoup parlé de tes lectures, des lectures qui ont pu t'influencer.
des performeurs ou des performances qui ont pu t'influencer ou qui t'influencent peut-être?
Serge Peille, Vincent Tolomé, Antoine Bout, certaines choses de Tarkos, Penquin aussi. D'encore des noms ou des...
Non, c'était pour savoir si tu avais aussi ce type d'influence, parce qu'on a beaucoup parlé d'écrit, voilà, tu dis que tu lis beaucoup, mais est-ce que ces rencontres t'ont influencé? C'était ma question, tu as répondu.
En fait, les performances, j'en fais pas depuis si longtemps que ça. Avant, je faisais juste des lectures, et comme vous en témoignez tous les deux, je lisais très mal. Et je sais pas comment c'est maintenant, mais ouais, je prends beaucoup plus de plaisir, que j'ai pas l'impression d'ennuyer les gens, c'est quand même quelque chose d'autre, au moins ils peuvent voir Catherine dessiner, et je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce schéma-là. Je trouve ça souvent très ennuyant de lire, et j'ai l'impression de prendre le temps des gens, je trouve pas ça sympa, du coup je me sens pas bien tant que je lis. Et ouais, dans le travail avec Catherine, je me sens beaucoup plus libre, parce que je sais qu'il y a quelque chose de bien de toutes les façons. Même si je ne lis pas très bien, il y a quand même quelque chose.
Alors, ce n'était pas tout à fait le sens de ma question. Ma question, ce n'était pas de dire est-ce qu'il y a des performeurs qui t'ont incité à performer. C'était est-ce qu'il y a des performeurs, des performances qui t'influencent dans ton écriture. Voilà.
Serge Peille. Non, mais oui. Parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure de Céline ou de Burroughs et d'utilisation de l'argot et des choses qui sont très proches du flux de conscience. Et je me suis mis à écrire, avant même de faire des performances, des choses qui étaient écrites pour être dites. Et même pour être criées. Et du coup, à travers la performance, j'ai pu trouver une application concrète à ça. Et j'en suis bien content. Dans la lecture, c'était plus difficile de faire, je trouve, de faire sortir certaines émotions ou certaines intensités que dans la performance où il y a quelque chose de beaucoup plus viscéral. On peut atteindre d'autres choses. Je sais pas si j'ai répondu.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Emma?
Je voulais revenir à ma question sur les causes auxquelles vous n'êtes pas engagé, du coup. Mais du coup, je vous ai entendu parler de postcolonialisme et d'attitude dominant-dominée entre les blancs et les noirs. Et je voulais savoir si peut-être ça pourrait être une ébauche de causes qui vous tient à cœur.
C'est pas assez général, je trouve. J'aime pas les choses particulières. Par exemple, j'ai énormément de copines qui sont féministes. Et je trouve toujours dans les causes, c'est... ça réduit, la liberté est totale. Et souvent, dans les causes, tu exiges un petit bout de liberté. Je veux que les blancs arrêtent d'embêter les noirs. Je veux que les hommes arrêtent d'embêter. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un bout de toi qui est concerné. Par exemple, le fait que tu aies besoin d'argent, que tu aies besoin d'être aimé, tous tes besoins, tu vois, on est enfermé en nous. On est obligé d'être des êtres humains, on est obligé de mourir. Et cette liberté-là, est, je trouvais plus intéressante à explorer parce que toutes les autres découlent de ça. C'est clair.
Ah oui, mais du coup, la liberté
n'existe pas.
Bah, le rapport dominant-dominé entre les blancs et les noirs fait aussi partie d'une forme de liberté. Puisque si les noirs se laissent dominer par les blancs, c'est aussi une forme de liberté qui leur est arrachée.
J'ai pas compris.
En fait,
les noirs se laissent dominer par les blancs, oui, c'est une forme de liberté qui leur est.
Le colonialisme, c'est la liberté qui est enlevée aux noirs. Donc, il n'y a pas seulement la liberté d'être un être humain.
Je crois que la liberté est que absolue. Il n'y a pas des degrés de liberté. On ne peut pas retirer de la liberté. On n'est déjà pas libre. D'accord. Je ne crois pas qu'il y ait de nuance dans la liberté.
D'accord.
Mais c'est un concept qui est intéressant pour faire des choses, j'y crois pas non plus. Mais ça permet de faire des choses, de courir après. C'est là que je trouve que c'est intéressant, la liberté. Sinon, on doit devenir Dieu, mais c'est compliqué.
D'accord, merci.
On est prisonnier du langage, on est prisonnier de 1000 choses. On peut pas choisir juste de se libérer de sa chaussure gauche.
J'ai cru comprendre après toutes ces interventions que le thème du rêve du coup était quelque chose de très important pour vous et que vous aviez aussi vraiment un travail derrière vos poèmes, que c'était parfois spontané mais que ça nécessitait quand même de revenir dessus. Est-ce que on sait que sur le fond vous parlez du rêve, vous essayez de les transmettre et vous aviez dit quelque chose qui m'a interpellé, c'est que vous essayiez de donner la sensation de rêver dans vos poèmes. Est-ce que dans la forme de vos poèmes, vous donnez aussi cette sensation en utilisant telles allitérations, des formes, des figures de style?
Je crois que c'est plus abstrait que ça et que c'est pas forcément... Enfin, je sais pas si ça a été volontaire à un moment donné ou pas, ou si je m'en suis aperçu après. Comme je disais, je crois que les choses sont toujours premières et que je pourrais essayer d'inventer quelque chose rapidement pour répondre à ta question, mais que... Je l'ai fait parce que c'était comme ça. C'est comme être amoureux. Tu peux expliquer, c'est parce qu'elle a des jolis yeux. Mais c'est pas vrai. C'est premier. Ou j'aime rêver. Je pourrais dire, c'est parce que le monde des rêves est sympathique. On peut faire des choses. Mais c'est, moi, je crois que les choses sont premières. Et qu'on tente toujours de les expliquer a posteriori. Donc je peux essayer d'inventer quelque chose rapidement.
Allez-y.
C'était quoi la question?
Oui, c'était bon.
C'est bon? J'ai répondu?
S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir peut-être clore la soirée. Non, pas d'autres interrogations, Luna?
Du coup, je voulais revenir sur le fait que vous ayez dit que vous n'étiez pas un poète. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous considérez comme un cinéaste, pour le coup?
Non plus.
Et ça serait quoi les exigences pour le devenir, selon vous?
Un cinéaste?
Oui.
Faire des films? Ouais. Bah, c'est toi qui décides si t'es cinéaste ou pas. Je sais plus, c'est Topor aussi qui parlait de ça, qui disait, moi je suis pas d'accord avec lui, mais il disait que c'était intéressant quand même, que les dénominations sont aussi des armes. Et dire je suis poète, je suis cinéaste, c'est, ou plutôt ne pas le dire, c'est laisser ces armes-là à d'autres personnes. Donc tu peux décider de dire que tu es cinéaste, c'est toi qui décides. Moi, sur la bio, j'ai mis un peu des choses, parce que j'avais envie de les mettre.
Et du coup, vous avez un... Pardon. Non, vous pouvez y aller.
C'est pas ça qui compte, je pense, okay. Le nom que tu donneras. C'est même mieux de ne pas en avoir, moi, je pense. Mm-hmm. On te demandera d'en avoir.
Ok, je vois. Et vous avez parlé d'un dessin animé que vous êtes. Enfin, c'est un projet.
Ouais.
Mais vous avez encore d'autres projets ou. Ben... À l'avenir, en tant que non-vidéaste.
Bah, ces deux trucs-là, il faudra d'abord que je les finisse. Il y a le documentaire dont je parlais sur Serge Pey, qu'on a tourné et qu'on n'a toujours pas monté. Et plus le scénario qu'on vient d'envoyer à la maison de production. On attend une réponse avant s'ils vont l'accepter. S'ils l'acceptent, il va falloir travailler encore derrière. Puis j'ai plein de recueils qui ne sont pas terminés. Ouais. On verra pour la suite après.
Je vous souhaite bonne chance.
Merci, c'est gentil.
Merci encore pour cette question. On va vous remercier, hein, Kenny, si d'autres questions n'arrivent pas.
Je peux répondre à une question que j'ai été posée.
Oui, bien sûr, volontiers.
Sur le truc de l'esclavage. On est toujours dans des rapports de commerce avec les gens. Je crois que les rapports humains sont pour moi uniquement des rapports de commerce. On donne pour recevoir. Y a peu de gens qui aiment des gens. Si je dis je t'aime, faut que tu me dises je t'aime. On fait pas l'amour tout seul. Les rapports intellectuels, pareil. On se nourrit pas que de soi. Et du coup, pour avoir, il faut donner. Et ça, c'est la condition de ça, être un homme. C'est être enchaîné à ces rapports-là. T'as besoin de manger pour vivre, t'as besoin de respirer. Et t'es enchaîné. Ça, c'est un esclavage qui est beaucoup plus prégnant, que je sens
pour moi beaucoup plus violent. Et si je savais dépasser ça, ou tendre à éloigner, je gagnerais en liberté beaucoup plus qu'en me battant pour des causes, je pense, qui dépendent de ça. Parce que le rapport entre les noirs et les blancs sont des rapports de commerce aussi. Mais c'est quoi ? C'est parce que le blanc a besoin d'être aimé et que le noir a besoin de manger. Et du coup, il y a un commerce. Il y a un dominant, un dominé. Et c'est toujours comme ça. Mais si on savait sortir de ces choses, de nos besoins et de cette nécessité du commerce, on n'aurait plus besoin de se battre pour des causes à droite, à gauche, je pense.
Je pense que ça nous éclaire encore plus sur la question qui avait été posée précédemment.
Merci.
Merci à vous, Kenny. Alors, on va rajouter une séance lecture.
Quelqu'un veut le lire ? Vous aimez mieux que moi. Quelqu'un a envie de
lire ? Alors, expliquez votre choix.
C'est un livre de Régent Ducharme qui s'appelle Un équivoque, qui parle de deux adolescents, un garçon et une fille, qui ont décidé de se... Comment il dit ? De se suicider, ça veut dire. Et avant ça, ils vont s'amuser. Parce que c'est la fin de leur adolescence à tous les deux. Et c'est un livre sur la fin de l'enfance et... Ouais, sur la fin de l'enfance. Et sur d'autres choses, mais il faut le lire. Et je voulais lire juste ce texte. Si je le trouve. C'est difficile à comprendre. Ce n'est pas facile à comprendre. Personne ne le comprend, excepté moi. N'être pas compris ne me dérange pas. Cela ne me fait rien. Je m'en fiche. Moi, je reste le même. Je ne veux pas aller plus loin. Je reste donc arrêté. Je ne veux pas continuer car je ne veux pas finir fini. Je reste comme je suis. Je laisse tout s'avilir, s'empuantir, se dessécher. Je les laisse tous vieillir loin devant moi. Je reste derrière, avec moi. Avec moi, l'enfant, loin derrière, seul, intact, incorruptible. Frais et amer comme une pomme verte, dur et solide comme une roche. C'est important comme le diable ce que je dis là. C'est tout pour moi. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi, l'enfant. Quelqu'un qui le garde, qui le protège du tragique du monde. Du monde qui est ridicule et qui rend ridicule. Je ne veux pas laisser, moi, l'enfant seul dans le passé. Seul présent dans toute l'absence, à la merci de l'oubli. Je le veille loin derrière. Je veille le ventre dans toute la cendre, avec des cadavres qui me laissent tranquille, avec tout ce qui est cadavre, seul avec l'enfant moi, seul avec une image dont le teint s'use sous mes doigts. Je ne veux pas changer. En secret, je continue de courir avec mes chiens, de porter la culotte courte, de pêcher des têtards avec Ivugivitch. Je ne suis pas fou. Je sais ce que je fais et sais où je suis. Il est 7 heures du soir. C'est le 9 septembre 1965. Mais les hommes ont besoin des hommes, même de ceux qui sont morts. J'ai besoin des hommes. Je rédige cette chronique pour les hommes, comme ils écrivent des lettres à leurs fiancés. Je leur écris parce que je n'ai pas à leur parler. Parce que j'ai peur de m'approcher d'eux pour leur parler. Près d'eux, je suffoque. J'ai le vertige des gouffres. Si j'ai peur de leur adresser directement la parole, ce n'est pas parce que je suis timide, mais parce que je ne veux pas rester embourbé dans leurs glaisières profondes, dans leurs abîmes marécageux. J'écris mal, et je suis assez vulgaire, je m'en réjouis. Mes paroles mal tournées et outrageantes éloigneront de cette table où des personnes imaginaires sont réunies pour entendre les amateurs et les amatrices de fleurs de rhétorique.
Ça donne envie, effectivement, de le lire. Merci pour ce choix qui donnera envie certainement à certains de s'y plonger. Si moi j'ai une dernière question, vous aviez parlé de l'influence du rap, que vous en écoutiez beaucoup, etc., mais que leur engagement peut-être à certains vous posait problème. Est-ce que vous avez essayé d'écrire des chansons sans forcément qu'elles soient engagées, hein? Souvent, on peut passer de la poésie à cet art mineur, dit-on, qui est la chanson.
En ce moment, je travaille sur un album avec un ami qui fait de l'électro. Mais ce n'est pas de la chanson, c'est mes textes qui sont lus, mais scandés différemment pour que ça marche avec la musique. Mais j'aurais voulu être rappeur, mais j'ai raté.
Vous me dites, Céline, qu'il y a tout un mouvement en ce moment qui est en train de rapprocher la poésie de la musique électro, effectivement. Il y a beaucoup de poètes qui se rapprochent des musiciens électro. Ils sont très intéressés aussi par cette recherche, et c'est en train de chercher dans tous les coins, et bientôt ça va sortir.
Et vous avez la main mise sur la musique, vous en discutez, comment se passe la collaboration là, sur cet album?
Il me fait lire 1000 fois, enfin je suis complètement étourdi, et il me fait d'abord écouter un premier track qui va complètement changer après. Je ne sais pas pourquoi il me le fait écouter d'ailleurs, que ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait après. Mais c'est, ouais, il me fait lire des après-midi entières. Et il me dit comment lire surtout. Comme un chef d'orchestre. C'est assez drôle. Il me force à lire très doucement. Et à respirer à chaque fois que je dis un mot. Du coup, j'ai la tête qui tourne.
Et ce sont des textes que vous avez écrits spécialement pour cet album ou que vous aviez déjà au préalable?
Des textes qui existaient déjà, mais depuis, en fait, il aime bien qu'il y ait des répétitions qui puissent matcher avec le rythme. Du coup, j'essaie en ce moment d'écrire souvent des textes qui commencent par des mêmes mots ou certains mots reviennent à l'intérieur du texte. Mais il ne va peut-être pas les prendre, je ne sais pas.
Ah, c'est à l'état expérimental pour l'instant.
Ouais.
Il y a d'autres questions suite à ces lectures.
Ça vous intéresse quelqu'un?
Oui, forcément. Merci, Kenny.
Merci.
Je ne sais pas comment faire. Je vous passe le sac et vous vous débrouillez avec. Et vous remettez tout dedans à la fin.